Chapitre 5. Sir James Chatham ne pouvait voir d'un bon œil les nouvelles entreprises de M. Brooke. Mais il était plus facile de blâmer que d'empêcher. Sir James s'excusa un jour d'être venu seul au lunch chez les Cadwallader en disant « Je ne puis vous parler comme je voudrais devant Célia. J'aurais peur de l'affliger, ce ne serait pas bien. » « Je sais ce que vous voulez dire. Le pionnier à la grange, » lança Mrs. Cadwallader, sans s'attendre que son ami eût achevé son dernier mot. C'est épouvantable de se mettre ainsi à acheter des sifflets et de corner dedans aux oreilles de tout le monde. Il vaudrait mieux rester au lit toute la journée et jouer aux dominos comme le pauvre Lord Plessy. On ne gênerait du moins pas les autres. Je vois qu'on commence à attaquer notre ami Brooke dans la trompette, dit le recteur nonchalamment étendu dans son fauteuil. Il y a de terribles sarcasmes dirigés contre un certain landlord qui est censé habiter à une centaine de milles, qui encaisse ses revenus et n'en laisse rien sortir. « Je voudrais bien que Brooke renonçât à tout cela, » dit Sir James, avec le léger froncement de sourcils qui indiquait chez lui le mécontentement. « Est-il vrai, cependant, qu'on va le présenter comme candidat ?» dit M. Cadwallader. « Hier, j'ai vu Fairbrother. Il est Whig lui-même, et il tient pour Brougham. Il prétend que Brooke est en train de se faire un parti assez fort. Bulstrode, le banquier, est à la tête de ses partisans. Mais il pense que Brooke se tirerait assez mal de sa candidature. » « Précisément, » dit Sir James du ton le plus grave. « J'ai pris des informations sur tout cela, car je n'ai jamais rien su, moi, campagnard, de la politique de Middlemarch. Mais Hawley me disait que si vraiment on envoie un Whig au Parlement, ce sera sûrement Baxter, un de ces candidats qui arrive on ne sait d'où, mais en guerre à mort avec le ministre et qui possède l'expérience des affaires parlementaires. Hawley est un rustre. Il oubliait que c'était à moi qu'il parlait. Il disait que si Brooke avait besoin d'une bonne volée, il pourrait l'obtenir à meilleur marché qu'aux assemblées électorales. « Je vous en avais tous averti, » s'écria Mrs. Cadwallader en agitant les bras. « J'ai dit à Humphrey, il y a longtemps, que Brooke ferait un plongeon dans la boue, et voilà que c'est fait. Ce qui m'ennuie le plus dans tout cela, c'est qu'il y compromet sa dignité, » dit Sir James. Je m'en préoccupe surtout à cause de la famille. Brooke n'est plus un jeune homme aujourd'hui, et je n'aime pas le voir s'exposer. On va remuer tout ce qu'on pourra contre lui. Je m'imagine qu'il ne servirait à rien de le dissuader, dit le recteur. Il y a un mélange si bizarre d'obstination et de versatilité dans la nature de Brooke. L'avez-vous confessé là-dessus? Eh bien non, répartit Sir James. Je trouverais indélicat d'avoir l'air de lui dicter sa conduite. Mais j'ai parlé à ce jeune Ladislav, dont Brooke est en train de faire son factotum. Ladislav me paraît assez intelligent pour réussir partout. J'ai trouvé bon d'écouter ce qu'il avait à dire, et il est opposé cette fois à la candidature de Brooke. Je crois qu'il le fera changer d'avis et qu'on pourra empêcher sa présentation. Mais ce Ladislav même, voilà encore une ennuyeuse affaire. Nous l'avons eu deux ou trois fois à dîner à Freshit Hall. Vous l'y avez rencontré par parenthèse, comme hôte de Brooke et parent de Casaubon. Nous pensions qu'il faisait une visite de passage, et je découvre maintenant que son nom est dans toutes les bouches comme rédacteur du Pionnier. Il court des histoires sur son compte. On le traite de gratte-papier, d'espion, d'étranger, que sais-je encore. Voilà qui ne plaira pas à Casaubon, observa le recteur. « Il y a du sang étranger dans les veines de Ladislav, » reprit Sir James. « J'espère qu'il ne se jettera pas dans les opinions extrêmes en y entraînant Brooke après lui. »« Oh, c'est un jeune rejeton dangereux que ce monsieur Ladislav, » dit Mrs. Cadwallader, avec ses airs d'opéra et sa langue déliée. « Une espèce de héros byronien, un conspirateur amoureux, cela me frappe tout à fait, et Thomas d'Aquin ne l'aime guère. » Je m'en suis bien aperçu le jour où on a apporté le tableau. « Je n'aime pas à entamer ce sujet avec Casaubon, » dit Sir James. « Il aurait pour intervenir des droits que je n'ai pas. Mais c'est sous tous les rapports une désagréable affaire. Quel rôle pour un homme honorablement apparenté. Journaliste de bas étage. Vous n'avez qu'à regarder Keck, le rédacteur de la Trompette. Je l'ai vu l'autre jour avec Hawley. Sa prose ne manque pas de vigueur, je crois. » Mais c'est un individu si vulgaire que j'aimerais mieux ne pas le voir dans notre parti. « Que peut-on attendre de petites feuilles pareilles ?» dit le recteur. « Vous ne trouverez nulle part, je pense, un homme de quelque valeur qui consente à écrire des articles sur des intérêts dont, au fond, il ne se soucie pas le moins du monde. Et cela moyennant un salaire qui suffit à peine à le faire vivre. » Précisément. Et c'est pour cela qu'il est fort ennuyeux que Brooke ait mis là un homme plus ou moins parent de la famille. Pour ma part, je trouve Ladislas bien bon d'accepter. C'est la faute de Daquin, dit Mrs. Cadwallader. Pourquoi n'a-t-il pas employé son crédit à faire de Ladislas un attaché d'ambassade ou à l'envoyer aux Indes? C'est comme cela que les familles se débarrassent des rameaux incommodes. On ne sait pas jusqu'où ira le mal, dit Sir James avec inquiétude. Mais si Casaubon ne bouge pas, que voulez-vous que je fasse? Oh, mon cher Sir James, conclut le recteur, n'en faisons pas trop d'affaires, après tout. Il est probable que tout cela s'en ira en fumée. Dans un mois ou deux, Brooke et ce traître de Ladislas en auront assez l'un de l'autre. Ladislas prendra son essor, Brooke vendra le pionnier, et tout rentrera dans l'ordre. Il nous reste une bonne chance, c'est qu'il n'aimera pas avoir filé son argent, dit Mrs. Cadwallader. Si je connaissais les frais des élections, je saurais bien lui faire peur. Ce ne serait pas d'une petite saignée que je lui parlerais. Je lui viderais tout un pot de sangsue sur le corps. Ce que nous n'aimons pas, nous autres bons avares, c'est de nous voir arracher nos pièces de sixpence. Et tout ce qu'on va soulever contre lui, dit Sir James, l'administration de ses terres d'abord. On l'a déjà attaqué là-dessus. Cela me fait vraiment peine à voir. C'est une peste que nous avons sous le nez. Je trouve, quant à moi, qu'on est tenu de faire tout ce qu'on peut, et plus encore, pour ses terres et ses tenanciers, surtout dans ces temps difficiles. Peut-être les attaques de la trompette l'amèneront-elles à y changer quelque chose. Et il pourrait, après tout, en résulter quelque bien, dit le recteur. J'en serais bien content. J'entendrai moins de réclamations quand on viendra me payer la dîme. Je voudrais qu'il prît un homme entendu pour s'occuper de cela. Je voudrais qu'il reprît Garth, ajouta Sir James. Il s'est défait de Garth il y a 12 ans, et tout a été de travers depuis. Je pense moi-même à employer Garth à l'administration de mes biens. Il a fait un plan merveilleux pour mes bâtiments, mais Garth ne se chargerait de la propriété de Tipton que si Brooke la laissait entièrement à ses soins. Oui, dit le recteur, Garth est un être indépendant, un être original, un esprit simple. Un jour qu'il faisait quelques évaluations pour moi, il m'a dit de but en blanc que les clergémen n'entendaient rien aux affaires et ne faisaient que du gâchis lorsqu'ils s'en mêlaient. Mais il l'a dit aussi tranquillement et aussi respectueusement que s'il m'avait parlé des marins. Tipton serait une autre paroisse si Brooke voulait le laisser faire. Si Dorothée était restée auprès de son oncle, il y aurait eu quelque chance, dit Sir James. Elle eut pris peu à peu de l'influence sur lui. Elle s'est toujours intéressée à l'état de la propriété. Elle avait, sur toutes ces matières, des idées remarquablement justes. Mais elle est absorbée par Casaubon maintenant. Célia s'en plaint assez. C'est à peine si nous pouvons la voir à dîner, depuis que Casaubon a eu son attaque. Sir James termina ses mots par un regard de dégoût plein de pitié, et Mrs. Cadwallader haussa les épaules, comme pour dire qu'on n'aurait jamais rien de nouveau à lui apprendre de ce côté-là. « Ce pauvre Casaubon, dit le recteur, il a eu là une vilaine attaque. Je l'ai trouvé l'air affaissé l'autre jour, chez l'archidiacre. » Au fond, reprit Sir James, qui ne se souciait pas de prolonger ce sujet de conversation, « Brooke ne veut le mal ni à ses tenanciers ni à personne. Mais il a pris l'habitude de rogner sur tout et de réduire toutes les dépenses. » « Eh bien alors, c'est une bénédiction. S'il ne connaît jamais bien ses propres opinions, sûrement il connaît sa bourse. » Mais, ajouta Mrs. Cadwallader, qui s'était levée pour aller regarder à la fenêtre, « mais vous n'avez qu'à parler d'un politique libéral pour le voir venir. »« Comment cela, Brooke ?» interrogea son mari. « Oui, empoignez-le maintenant avec la trompette, Humphrey. Moi, je vais lui mettre les sangsues, et vous, Sir James, que ferez-vous ? » Le fait est que je n'aime pas aborder ce sujet avec Brooke, étant donné nos rapports, tant l'affaire est désagréable. Je voudrais que tout le monde se conduisît en gentleman, dit le bon baronnet, sentant que c'était là pour le bien social un programme simple et intelligible. Vous voici tous, commença M. Brooke, passant de l'un à l'autre et donnant des poignées de main. Je me disposais à aller tout à l'heure à Freshitt Hall, Chatham. Mais c'est charmant de vous trouver tous ici, vous savez. Eh bien, que pensez-vous de nos affaires? Elles marchent un peu vite, n'est-ce pas? C'était assez juste ce que disait Lafitte. Depuis hier, un siècle s'est écoulé. Ils sont déjà dans le siècle suivant, vous savez, de l'autre côté de l'eau. Ils vont plus vite que nous. Eh oui, dit le recteur en prenant le journal, voici la trompette qui vous accuse de rester en arrière. Avez-vous vu? Non, dit Brooke en mettant ses gants dans le fond de son chapeau et en ajustant rapidement son lorgnon. Mais M. Cadwallader garda le journal dans sa main, ajoutant avec un sourire dans les yeux, « Voyez, tout cela concerne un landlord vivant à quelques centaines de milles de Middlemarch qui s'est joliment empoché ses revenus. On dit que c'est l'homme le plus rétrograde du comté. C'est vous qui lui avez enseigné ce mot-là dans le Pionnier, j'imagine. Oh, c'est Keck qui a écrit cela, cet être illettré, rétrograde, regardez-moi cela. » Voici un ou deux traits assez mordants, et le recteur se mit à lire. Si nous avions à faire le portrait d'un homme rétrograde, dans le plus mauvais sens du mot, nous dirions que c'est celui qui veut se faire le réformateur de notre Constitution, tandis que tous les intérêts dont il est immédiatement responsable tombent en ruine. Un philanthrope qui ne peut voir pendre un gredin, mais qui ne s'inquiète pas si plus d'un honnête tenancier meurt de faim et de froid. Un homme qui crie à la corruption et qui exige de ses fermiers une rente de la valeur du revenu. Qui rugit comme un diable contre les bourgs pourris et qui se soucie peu que les champs de ses fermiers soient entourés de barrières pourries. Un homme au cœur très large pour Leeds et Manchester, disposé à leur accorder autant de représentants au Parlement qu'il s'en trouvera pour payer leur siège de leur bourse. Ce qu'il n'aime pas à donner, c'est une petite somme, les jours où on lui paye ses rentes, pour aider à acheter des provisions, ou une avance à un tenancier pour faire des réparations à une grange, ou pour faire de sa maison autre chose qu'une chaumière irlandaise. Mais nous connaissons tous la définition que faisait un plaisant d'un philanthrope, un homme dont la charité augmente en raison directe du carré de la distance. Et ainsi de suite, conclut le recteur, en déposant le journal et en se croisant les mains derrière la tête, tout en regardant M. Brooke avec un air indifférent et amusé à la fois. « Allons, c'est assez bon cela, » dit M. Brooke, prenant le journal et s'efforçant de supporter le coup aussi gaiement que son voisin, mais en rougissant et en souriant d'un air un peu nerveux. Cette phrase de « rugir comme un diable contre les bourgs pourris », jamais de ma vie je n'ai fait un discours sur les bourgs pourris. Et quant à rugir comme un diable et tout ce qui suit, ces gens-là ne savent pas ce que c'est qu'une satire. La satire, vous savez, devrait être vraie jusqu'à un certain point. Je me rappelle qu'on a dit quelque part, dans la revue d'Édimbourg, « La satire doit être vraie jusqu'à un certain point. » Eh bien, savez-vous que c'est une allusion, ce qu'ils disent des barrières, reprit Sir James, qui ne voulait s'avancer qu'avec prudence. Dagley se plaignait à moi l'autre jour de ne pas avoir de clôture convenable à sa ferme. Garth en a inventé un nouveau modèle que je voudrais vous voir essayer. On devrait employer à ces choses-là un peu de son bois de construction. Vous donnez dans le fermage fantaisiste, vous, Chatham, vous savez. C'est votre dada, et vous ne craignez pas la dépense. Je pensais que le dada le plus coûteux dans ce monde était de se présenter au Parlement, dit Mrs. Cadwallader. On raconte que le dernier candidat malheureux de Middlemarch a dépensé 10 000 livres et a échoué pour n'avoir pas encore assez corrompu les électeurs. Quelle amère réflexion pour un homme! Oui, les Tories corrompent, eux, dit M. Brooke. Hawley et son parti corrompent avec des banquets, des pommes cuites, etc. Ils amènent les électeurs ivres pour voter. Mais ils ne mèneront pas les affaires dans l'avenir, vous savez. Middlemarch est un peu arriéré, j'en conviens. Les fermiers libres sont un peu arriérés, mais non les institutions. Nous les ferons marcher, vous savez. Nous avons dans notre parti les meilleures têtes de l'endroit. Hawley dit que vous avez dans votre parti des hommes qui vous nuiront, remarqua Sir James. Il dit que Bulstrode, le banquier, vous nuira. Et que si vous êtes lapidé, intervint Mrs. Cadwallader, La moitié des œufs pourris viendront de la haine qu'on a pour votre homme des comités religieux. Grand Dieu, réfléchissez à ce que cela doit être, que de se voir lapidé pour des opinions erronées. Je me souviens d'un homme qu'on a voulu porter en triomphe dans un fauteuil, afin de le laisser tomber tout exprès dans un tas de boue. La lapidation n'est rien en comparaison de leur habileté à découvrir les trous de nos habits, là où le talon nous blesse, dit le recteur. J'avoue que c'est ce qui m'effraierait, si nous avions aussi à nous présenter aux électeurs pour les promotions, nos autres pasteurs. J'aurais peur de les voir compter toutes les journées que je passe à la pêche. Par ma foi, je crois que la vérité est le plus terrible projectile avec lequel on puisse nous lapider. Le fait est, dit Sir James, qu'un homme qui entre dans la vie publique doit être préparé à en subir les conséquences. Il faut qu'il ne donne pas prise à la calomnie. Mon cher Chatham, tout cela est bel et bien, vous savez, dit M. Brooke. Mais comment faire pour ne pas donner prise à la calomnie? Lisez l'histoire, voyez l'ostracisme, la persécution, le martyre et tout ce genre de choses-là. Les hommes les meilleurs en sont les victimes. Voyez dans Horace, « Fiat justitia ruat ». Justement, dit Sir James, avec un peu plus de chaleur que de coutume, ce que j'entends par ne pas donner prise à la calomnie, c'est être à même de contredire le fait sur lequel on vous attaque. Eh bien, vous savez, Chatham, dit M. Brooke en se levant et prenant son chapeau, vous et moi, nous avons un système différent. Vous êtes disposé à faire des dépenses pour vos fermes. Je ne prétends pas prouver que mon système soit bon en toutes circonstances. En toutes circonstances, vous savez. Il faudrait, de temps à autre, faire une nouvelle évaluation des propriétés, dit Sir James. Qu'en dites-vous, Cadwallader? Je suis d'accord avec vous. Si j'étais Brooke, je ferais taire la trompette en demandant à Garth de faire une nouvelle estimation des fermes et en lui donnant carte blanche pour les clôtures et les réparations. C'est ainsi que j'envisage la situation politique, dit le recteur, dilatant sa poitrine et fourrant ses pouces dans les entournures de son gilet. Et il regardait M. Brooke en riant. « Ce serait là faire quelque chose de bien éclatant, vous savez, dit M. Brooke. Mais citez-moi un autre propriétaire qui ait aussi peu tourmenté ses tenanciers pour leurs arriérés que je ne l'ai fait. » Je suis exceptionnellement accommodant. Permettez-moi de vous le dire, exceptionnellement accommodant. J'ai mes idées à moi, sur lesquelles je me base, vous savez. Un homme qui fait cela est toujours accusé d'excentricité, d'inconsistance et tout ce qui s'ensuit. Quand je changerai ma ligne de conduite, ce seront encore mes idées que je suivrai. Et M. Brooke, un peu piqué, se souvint tout à coup qu'il avait oublié de faire partir un paquet de la grange et pris congé de tout le monde. Chapitre 6. Sir James n'avait pas l'esprit fertile en projets inventifs, mais sa foi dans l'influence de Dorothée et son désir croissant d'agir sur Brooke le rendirent ingénieux, et il finit par combiner son petit plan, invoquant une indisposition de Celia pour faire venir Dorothée seule au hall et la déposant en voiture à la grange après l'avoir mise au courant de la situation et de la question des propriétés. Ce fut ainsi qu'un jour, vers 4 heures de l'après-midi, comme M. Brooke et Ladislav étaient assis dans la bibliothèque, la porte s'ouvrit et on annonça Mrs. Casaubon. Obligée d'aider M. Brooke à mettre en ordre ses documents sur le châtiment de la potence infligée aux voleurs de moutons, tout en ruminant le projet d'abandonner le séjour de la grange pour aller se loger à Middlemarch, Will était plongé dans toutes les profondeurs de l'ennui. Quand on annonça Mrs. Casaubon, il tressaillit comme traversé d'un choc électrique et ressentit un frémissement au bout des doigts. L'œil d'un observateur eut constaté à coup sûr dans son teint, dans la contraction des muscles de son visage, dans l'ardeur de son regard, un changement pareil aux effets d'un toucher magique agissant sur chaque molécule de son corps. La magie qui opère ces miracles, c'est celle d'une nature sublime. Et qui pourra mesurer la subtilité de ces touchers qui transforment la condition d'une âme aussi bien que celle d'un corps, qui font que la passion d'un homme pour une femme ne ressemble pas à sa passion pour une autre femme, tout comme la joie qu'on éprouve à regarder dans la lumière du matin la vallée, la rivière et le sommet blanc des montagnes ne ressemble pas au plaisir qu'on prend au décor d'une illumination. Will était fait, lui aussi, d'une étoffe très délicate. L'archet d'un artiste sur son violon pouvait, au premier coup, changer pour lui l'aspect du monde, et sa manière de voir se transformait aussi facilement que son humeur. L'entrée de Dorothée fut comme la fraîcheur de cette matinée. « Et quoi, ma chère ? Voilà qui est charmant !» dit son oncle, allant au-devant d'elle et l'embrassant. « Vous avez laissé Casaubon dans ses livres, j'imagine. C'est fort bien. Il ne faut pas nous devenir trop savantes pour une femme, vous savez. » « Ce n'est pas à craindre, mon oncle, » dit Dorothée, se tournant vers Will et lui donnant une poignée de main avec une franche bonne humeur. « Je suis très lente. Quand je veux m'occuper sérieusement à lire, je fais souvent l'école buissonnière au milieu de mes pensées. Je ne trouve pas aussi facile de s'instruire que de faire des plans de chaumière. » Elle s'assit à côté de son oncle, en face de Will, évidemment préoccupé de quelque chose qui lui faisait presque oublier la présence de ce dernier. Lui-même se sentit ridiculement contrarié, comme s'il s'était figuré que Dorothée ne venait que pour lui. « C'est vrai, ma chère, c'était bien votre manie de dessiner des plans. Mais il n'a pas été mauvais de changer un peu tout cela. Les dadas sont susceptibles de s'emporter avec nous, vous savez. Cela ne vaut rien d'être emporté. Il faut garder les rênes en main. Je ne me suis jamais laissé emporter. J'ai toujours tiré en arrière. C'est ce que je dis à Ladislav. Nous nous ressemblons, lui et moi, vous savez. Il aime à entrer un peu dans toute chose. Nous travaillons précisément sur la peine capitale. Nous ferons beaucoup de choses ensemble, Ladislav et moi. Oui, Sir James m'a dit qu'il espérait voir s'opérer bientôt un grand changement dans l'administration de vos propriétés. Que vous pensiez à faire évaluer vos fermes, aux réparations nécessaires et à l'amélioration des chaumières, de façon à transformer tout à fait l'aspect de Tipton. « Quel bonheur !» ajouta-t-elle en serrant ses mains l'une contre l'autre, avec un retour de ses façons spontanées et un peu enfantines, qui étaient restées renfermées en elle depuis son mariage. « Si j'étais encore à la maison, je me remettrais à monter à cheval pour me promener avec vous et suivre tout cela. »« Et vous allez engager M. Garth, » m'a dit Sir James. « Chatham va un peu vite, ma chère, » répliqua M. Brooke, en rougissant légèrement. « Un peu vite !» Je n'ai jamais dit que j'allais le faire. Je n'ai pas dit non plus que je ne le ferais pas, vous savez. Mais il a l'intime conviction que vous le ferez, dit Dorothée, d'une voix aussi claire et aussi assurée que celle d'un enfant de cœur chantant un credo. Parce que vous voulez entrer au Parlement à titre de membre utile, préoccupé d'améliorer la condition du pauvre, et qu'une des premières choses à améliorer serait la condition des terres et des laboureurs. Pensez à Kit Downs, mon oncle, qui vit avec sa femme et 7 enfants dans une maison où il n'y a qu'une chambre pour se tenir et une seule chambre à coucher, à peine plus grande que cette table. Et ces pauvres Dagley dans leur ferme délabrée dont ils habitent l'arrière-cuisine, tandis que le reste est abandonné aux rats. C'est en partie à cause de cela que je n'ai jamais aimé vos tableaux, mon oncle, ce dont vous me trouviez stupide. Je revenais toujours du village, rapportant comme une plaie au fond de mon cœur l'image de cette boue et de cette laideur grossière. Et ces figures de salon avec leur sourire niais me semblaient comme une invitation cruelle à prendre plaisir dans le faux. Alors que la vérité est si dure pour nos voisins d'au-delà de nos murs, et que nous nous en inquiétons si peu. Je ne crois pas que nous ayons le droit de nous mettre en avant, et de réclamer de plus grandes réformes, avant d'avoir essayé de remédier aux maux qui sont à notre portée. Dorothée, tout en parlant, s'était laissée gagner par l'émotion et avait tout oublié, hormis le soulagement d'exprimer ses sentiments sans contrainte, comme autrefois, avant son mariage, qui avait été pour elle une lutte continuelle entre l'énergie et la crainte. Quant à Will, son admiration était accompagnée d'un sentiment d'être plus loin d'elle qui lui faisait froid. Un homme est rarement honteux de sentir diminuer son amour pour une femme, parce qu'il reconnaît en elle une sorte de grandeur, la nature ayant apparemment réservé la grandeur à l'homme. Mais la nature commet quelquefois de tristes erreurs dans l'accomplissement de ses vues, comme dans le cas du bon M. Brooke, dont la conscience masculine en était pour le moment au bégaiement devant l'éloquence de sa nièce. Il ne put trouver sur l'heure d'autre matière de s'exprimer que de se lever, d'ajuster son lorgnon et de remuer les différents papiers qui étaient devant lui. Enfin, il reprit « Il y a quelque chose dans ce que vous dites, ma chère. Quelque chose, mais pas tout, n'est-ce pas, Ladislav ? Nous n'aimons pas, vous et moi, qu'on trouve à redire à nos tableaux et à nos statues. Les jeunes ladies sont un peu promptes, vous savez. Un peu tout d'une pièce, ma chère. Les beaux-arts, la poésie, etc. élèvent une nation. Émolite, mores, vous comprenez un peu de latin maintenant. Mais quoi? Que voulez-vous? Ces interrogations s'adressaient au valet de pied qui venait d'entrer disant que le garde avait surpris un des garçons de Dagley avec un levrault tout fraîchement tué dans les mains. « Je viens, je viens. Je le tiendrai quitte à bon marché, vous verrez, » dit M. Brooke tout bas à Dorothée en s'éloignant gaiement de son pas hésitant. « Vous sentez, n'est-ce pas, combien est équitable ce changement que Sir James désire ?» dit Dorothée à Will dès que son oncle fut parti. « Je le sens maintenant que je vous ai entendu parler. Je n'oublierai pas ce que vous avez dit. Pouvez-vous cependant vous occuper d'un autre sujet en ce moment ?»« Il se peut que je n'ai plus d'autre occasion de vous parler de ce qui s'est passé, » dit Will se levant avec un mouvement d'impatience et tenant de ses mains le dossier de la chaise. « Qu'est-ce donc ? Dites-le-moi, je vous en prie, » dit Dorothée avec inquiétude, se levant aussi et se dirigeant vers la fenêtre ouverte par laquelle Monk la regardait, haletant et agitant la queue. Will la suivait des yeux. « Vous savez, je pense que M. Casaubon m'a défendu l'entrée de sa maison. »« Non, je ne le savais pas, » dit Dorothée après un instant de silence. Elle était violemment émue. « Je suis très peinée, » ajouta-t-elle avec tristesse. Elle pensait à ce que Will ignorait absolument, à cette conversation entre elle et son mari dans l'obscurité, et de nouveau l'impression désespérante de ne pouvoir rien sur la conduite de M. Casaubon s'empara de son âme. Mais, à voir l'expression profonde de sa douleur, Will fut convaincu que ce n'était pas à lui personnellement qu'elle se rapportait, et que Dorothée n'avait pas eu l'idée qu'elle pouvait être pour quelque chose dans l'aversion et la jalousie de M. Casaubon contre lui. Il ressentit un mélange bizarre de ravissement et de mécontentement. De ravissement de pouvoir demeurer chéri sans soupçon et sans restriction dans la pensée de Dorothée comme dans une pure cellule. De mécontentement parce qu'il comptait trop peu pour elle, parce qu'il ne la dominait pas assez, peu flatté d'être traité par elle avec une bienveillance si naturelle et si facile. Mais la crainte de voir Dorothée changer en rien fut plus forte que le mécontentement, et d'un ton calme, il reprit simplement son explication. « Monsieur Casaubon n'est pas d'avis que je reste ici, et que je m'y crée une position. Il considère cela comme indigne du rang d'un cousin à lui. » Je lui ai dit que je ne saurais lui céder sur ce point. Il serait par trop dur de voir ma carrière entravée par des préjugés que je trouve ridicules. L'obligation peut aller si loin qu'elle n'est plus alors qu'une marque d'esclavage imprimée sur nous, alors que nous sommes encore trop jeunes pour en comprendre la portée. Je n'aurais pas accepté cette situation si je n'étais décidé à la rendre utile et honorable. Je n'ai pas à tenir compte de la dignité de famille à un autre point de vue. Dorothée se sentait malheureuse. Elle trouvait son mari absolument dans son tort, et pour cela, et pour d'autres raisons encore, que Will l'avait laissé de côté. « Il vaut mieux pour nous ne plus parler de ce sujet, » dit-elle avec un tremblement peu ordinaire dans la voix, « puisque vous et M. Casaubon n'êtes pas d'accord. Vous avez l'intention de rester ?» Elle regardait la pelouse devant elle avec une expression de mélancolique méditation. « Oui, mais je ne vous verrai presque jamais dorénavant. » repartit Will avec un accent de plainte comme celui d'un enfant. Non, dit Dorothée en le regardant de son plein et ferme regard, presque jamais. Mais j'entendrai parler de vous. Je saurai par mon oncle ce que vous faites. C'est à peine si je saurai quelque chose de vous, moi, dit Will. Personne ne m'en dira rien. Oh, ma vie est bien simple. Les lèvres de Dorothée se rejoignirent en un sourire délicieux qui éclaira sa mélancolie. « Je suis toujours à Lowick. »« C'est une affreuse prison, » dit Will impétueusement. « Non, ne croyez pas cela. Je n'ai pas d'aspiration. » Il se tut, et elle reprit, comme répondant à un changement survenu dans sa physionomie, « Je veux dire pour moi, sauf que je voudrais bien ne pas avoir plus que ma part de bien-être, sans rien faire pour les autres. Mais j'ai ma croyance à moi, et elle me soutient. »« Quelle est-elle ? » dit Will, un peu jaloux de cette croyance. C'est qu'en désirant ce qui est parfaitement bon, même sans bien savoir ce que c'est, et sans pouvoir faire ce que nous voudrions, nous sommes une partie de la puissance divine contre le mal, élargissant les espaces de lumière et resserrant la lutte contre l'obscurité. C'est un beau mysticisme, cela, c'est un... Ne l'appelez d'aucun nom, je vous en prie, dit Dorothée, étendant les mains en manière de supplication. Vous l'appelleriez persan ou quelque autre nom géographique. C'est ma vie. Je l'ai trouvée et ne peux plus m'en séparer. Je me suis toujours fait ma religion à moi depuis que j'étais enfant. Je priais tant alors. Et aujourd'hui, je ne puis presque plus prier. Je m'efforce de ne pas avoir de désir pour moi seulement, parce qu'il pourrait n'être pas bon pour les autres, et je n'en ai que trop déjà. Je vous ai dit cela uniquement, afin que vous sachiez tout au long comment se passent mes jours à Lowick. « Dieu vous bénisse de me l'avoir dit !» s'écria Will avec ardeur, et s'étonnant presque de lui-même. Ils se regardaient l'un l'autre comme deux enfants qui s'aiment, et qui, en grande confidence, se parlent des petits oiseaux. « Quelle est votre religion ?» demanda Dorothée. « Je ne veux pas dire ce que vous savez de la religion, mais la croyance qui vous aide le plus dans la vie. « Aimer ce qui est bien et ce qui est beau quand je le vois, » répondit Will. « Mais je suis un rebelle, moi. Je ne me sens pas tenu comme vous à me soumettre à ce que je n'aime pas. « Si vous n'aimez que ce qui est bien, cela revient au même, » dit Dorothée en souriant. « Vous devenez subtil. « Oui, M. Casaubon me dit souvent que je le suis trop. « Bien que je ne m'en aperçoive pas moi-même, dit Dorothée d'un ton joyeux. « Mais comme mon oncle tarde, je vais aller voir où il est. « Il faut absolument que j'aille à Freshill Hall, Célia m'attend. » Will se disposait à aller prévenir M. Brooke lorsque celui-ci rentra, disant qu'il profiterait de la voiture pour aller avec Dorothée jusque chez les Dagley afin de régler l'affaire du petit délinquant qu'on avait surpris avec le Levrault. Durant le trajet, Dorothée essaya de reprendre la conversation de tout à l'heure sur l'état de la propriété. Mais M. Brooke, averti qu'il était, sut plus adroitement détourner le sujet. Et bientôt, descendant à la barrière d'une ferme, il laissa Dorothée continuer sa route. Il est étonnant à quel point les choses nous paraissent plus laides quand nous soupçonnons seulement qu'on en fait un sujet de blâme pour nous. Nos personnes mêmes peuvent, dans le miroir, changer d'aspect pour nos yeux, si nous avons entendu quelques franches remarques sur ce qu'elles ont de moins admirable. C'est d'un autre côté merveille de voir avec quelle facilité notre conscience empiète sur ceux qui ne se plaignent jamais et qui n'ont personne qui se plaigne pour eux. L'habitation de Dagley n'avait jamais paru si horrible que ce jour-là à M. Brooke, qui avait l'esprit péniblement affecté des blâmes de la trompette dont Sir James était l'écho. Un artiste habitué à ne voir des misères d'autrui que le côté pittoresque aurait pu, il est vrai, être ravi de cette habitation nommée Freeman's End. La vieille maison avait des lucarnes percées dans son toit brun, deux de ses cheminées disparaissaient sous le lierre. La grande porte était encombrée de fagots et les fenêtres presque toutes fermées par des volets gris vermoulus, sur lesquels les branches d'un jasmin croissaient dans une sauvage abondance. Le mur dégradé du jardin, par-dessus lequel s'élevaient les têtes des roses trémières, était une étude parfaite de couleurs neutres et fondues, et une vieille chèvre reposait étendue contre la porte ouverte de l'arrière-cuisine. Le chaume moussu du hangar à bestiaux, les portes de la grange cassées et vermoulues, les laboureurs en culottes déchirées qui achevaient de décharger un chariot de blé dans la grange, l'étroite laiterie ouverte où l'on venait d'attacher les vaches pour les traire, tandis que l'autre moitié du hangar demeurait vide et obscure. Les cochons eux-mêmes et les canards blancs, nourris de reliefs insuffisants, errant sur le sol inégal et négligé de la cour comme en proie à la nostalgie, tout cet ensemble, sous la tranquille lumière d'un ciel marbré par de hauts nuages, eût fait un de ces tableaux devant lesquels nous nous arrêtons tout comme devant un coin charmant, parce qu'ils font vibrer en nous des cordes sensibles, étrangère à l'état misérable de l'agriculture ou au manque affligeant de capital d'exploitation dont les journaux de l'époque nous entretenaient constamment. Mais ces considérations pénibles se présentèrent alors fortement à l'esprit de M. Brooke et lui gâtèrent le côté pittoresque du tableau. M. Dagley faisait lui-même figure dans le paysage avec sa fourche et son chapeau de laitier qui n'était autre qu'un très vieux castor aplati par devant. Quoique ce fût jour de semaine, il avait mis son meilleur habit et ses meilleures culottes pour aller au marché, d'où il était revenu plus tard que de coutume, s'étant accordé la rare jouissance de dîner à la table d'hôte du Taureau bleu et d'y absorber une grande quantité de bière commune, suivie de copieux mélanges de grog au rhum. Ces liqueurs ont en elles-mêmes une dose de vérité si puissante qu'elles ne furent pas encore assez fausses pour donner un air joyeux au pauvre Dagley. Elles ne firent que rendre son mécontentement plus loquace que de coutume. Il avait aussi absorbé un peu trop de conversations politiques de cabaret, stimulant fort troublant et préjudiciable à ses sentiments de fermier conservateur. Il était rouge, immobile avec sa fourche en main, et ses yeux avaient un regard décidé et querelleur, tandis que son propriétaire s'avançait vers lui de son allure nonchalante, une main dans la poche, de l'autre brandissant en l'air une petite canne de promenade. « Dagley, mon brave homme !» commença M. Brooke, sentant qu'il allait être très amical dans l'affaire du petit garçon. « Oh, oh, je suis un brave homme, n'est-ce pas ?»« Merci, monsieur, merci !» dit Dagley avec une ironie bruyante et grossière qui fit quitter sa place et dresser les oreilles à Fagg, le chien de troupeau. Mais, voyant Monk entrer dans la cour, après avoir erré quelque temps au dehors, Fagg se rassit dans une attitude d'observation. « Je suis heureux d'apprendre que je suis un brave homme. » M. Brooke fit la réflexion que c'était jour de marché et que son digne tenancier avait probablement dîné, mais il ne vit pas de raison pour ne pas continuer. « Votre petit Jacob a été surpris tuant un levreau, Dagley. J'ai dit à Johnson de l'enfermer pendant une heure ou deux dans l'étable vide, juste assez pour lui faire peur. Mais on le ramènera tout à l'heure à la maison avant la nuit. Seulement, vous veillerez un peu à sa conduite, n'est-ce pas ?
Et vous lui ferez une réprimande, vous savez ?
Je n'en ferai rien. Que je meure si je vais l'étriller pour vous plaire. À vous ou à n'importe qui, même quand vous seriez 20 landlords au lieu d'un seul, et que mon garçon fût un mauvais gars. » Les paroles de Dagley firent assez de bruit pour attirer sa femme à la porte de l'arrière-cuisine, la seule entrée dont on se servit, toujours ouverte par tous les temps. « c'est bien, je parlerai à votre femme. Je ne pensais pas à le battre, » dit M. Brooke avec douceur, en se dirigeant vers la maison. Mais Dagley, toujours plus obstiné à avoir son dire avec un gentleman qui le fuyait, s'empressa de le suivre, tandis que Fagg se traînait sur ses talons et repoussait avec mauvaise humeur les avances probablement charitables de Monk. « Comment allez-vous, Mrs. Dagley ?» dit Brooke avec quelque précipitation. « Je suis venu vous parler de votre garçon. Je ne vous demande pas de lui donner du bâton, vous savez. » Mrs. Dagley était une petite femme maigre, usée de travail. Depuis le retour de son mari, elle avait déjà eu une altercation avec lui et se trouvait en de tristes dispositions d'esprit. Son mari répondit à sa place en élevant la voix, comme s'il voulait terrasser son adversaire. « Non, il n'aura pas de bâton, que vous le vouliez ou non. Ce n'est pas à vous de venir parler de bâton en ces lieux, quand vous ne voulez pas seulement donner un morceau de bois pour réparer la maison. Allez un peu à Middlemarch vous renseigner sur votre caractère. Vous feriez mieux de tenir votre langue, Dagley, dit sa femme, et de ne pas renverser vous-même votre écuelle. Quand un père de famille a été dépensé de l'argent au marché, et empirer encore son état avec la boisson, il a fait assez de mauvaise besogne pour un jour. Mais je voudrais savoir ce qu'a fait mon garçon, monsieur. Pourquoi vous inquiétez de ce qu'il a fait ? Reprit Dagley, plus en colère. C'est mon affaire et non la vôtre, et je parlerai moi aussi. J'aurai mon dire, souper ou non. Et ce que je dis, c'est que j'ai vécu sur votre terre depuis mon père et mon grand-père avant moi. Et nous y avons dépensé notre argent, et aujourd'hui, nous pourrions bien pourrir sur le sol, mes enfants et moi, en guise de l'engrais que nous ne pouvons acheter, faute d'argent, si le roi ne devait pas y mettre fin. « Mon brave homme, vous êtes gris, vous savez, » dit M. Brooke d'une manière plus confidentielle que judicieuse. « un autre jour, » ajouta-t-il, en se retournant comme pour s'en aller. Mais Dagley lui fit face aussitôt, et Fagg grondait sourdement derrière lui, à mesure que la voix de son maître devenait plus forte et plus insultante. Tandis que Monk, silencieux et digne, se rapprochait aussi, l'œil au guet. Les laboureurs, debout sur le chariot, s'arrêtaient pour entendre, et il paraissait plus sage de conserver une attitude passive que d'essayer une fuite ridicule, poursuivie par un braillard ivre. « Je ne suis ni plus gris que vous, ni même autant, » dit Dagley. « Je supporte ma boisson, et je sais ce que je veux dire, et je veux dire que le roi y mettra fin. Car ceux qui le savent disent qu'il y aura une réforme, et que certains propriétaires, qui n'ont jamais fait ce qu'ils devaient pour leurs tenanciers, seront traités de telle sorte qu'ils auront à tourner les talons au plus vite. Et il y en a à Middlemarch qui savent ce que c'est que la réforme, et lesquels tourneront les talons. Ils disent « Nous savons qu'il est votre landlord, et c'en est un qui a la main serrée. Il est pour la réforme. » Voilà ce qu'ils disent. Et j'ai démêlé ce que c'était que la réforme, et elle vous fera tourner les talons à vous et à vos pareils. Et avec des projectiles qui sentiront pas mal fort, je vous le dis. Et vous pouvez faire ce qui vous plaît maintenant, je n'ai pas peur de vous. Et vous feriez mieux de laisser mon garçon en paix et de vous occuper de vos affaires avant d'avoir la réforme sur le dos. Voilà ce que j'avais à dire, conclut M. Dagley, enfonçant sa fourche dans le sol avec une vigueur qui lui parut de trop lorsqu'il voulut l'en retirer. Là-dessus, Monk se mit à aboyer avec force, et ce fut pour M. Brooke l'instant de s'échapper. Il sortit de la cour le plus rapidement possible, non sans un certain étonnement de la nouveauté de sa situation. Jamais encore il n'avait été insulté sur ses propres terres, s'étant toujours cru volontiers le favori de chacun. Ne sommes-nous pas tous plus ou moins disposés à avoir cette opinion de nous-mêmes, quand nous songeons à notre amabilité, plutôt qu'à ce que les autres peuvent attendre de nous ?